Bonjour Mathieu, c'est Jackie de Nîmes. Il était temps que vous ayez une discussion enfin sérieuse avec Jean-Marc Jancovici. C'est pas un gourou, non, effectivement, c'est un physicien, un ingénieur, un des rares qui met en perspective les problèmes physiques de la Terre, ceux qui vous intéressent et ceux qui participent grandement à la pollution et à la destruction de notre planète. Et donc, il est temps que vous ayez une approche beaucoup plus pragmatique, informative. Vous devriez être quand même beaucoup plus analyste et pédagogue sur ces questions plutôt que des émissions parfois pour faire du buzz. Excusez-moi, hein, je vous adore Mathieu, mais vraiment c'est votre devoir de service public. Donc merci pour cette émission trop courte, merci de ne pas avoir trop insisté sur le nucléaire. Bonne continuation, à bientôt.
Bonjour, c'est Hélène de Rennes. Je m'adresse à Monsieur Jancovici. Je crois que vous proposez, pour sortir de la crise climatique et énergétique, de construire de nouvelles centrales nucléaires. Si on maîtrise à peu près les centrales nucléaires, on ne maîtrise pas du tout les catastrophes climatiques qui vont arriver. La sécheresse, les ouragans, les incendies, tout ça. Ces accidents climatiques et par ricochet nucléaire seront gérés dans l'urgence et mal. Surtout qu'on ne connaît pas non plus l'avenir politique de la France d'après-demain. Le nucléaire exige un État qui fonctionne bien, qui a de l'argent, qui n'est pas corrompu. Et qui peut prétendre assurer une telle stabilité politique, administrative et des compétences techniques dans un temps si long, enfin, à l'échelle du nucléaire. Ces incertitudes font peser au-dessus de la tête de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures, des risques énormes. Alors plutôt que de construire de nouveaux réacteurs, ne serait-il pas raisonnable de consolider et de faire durer l'existant, existant que l'on ne sait toujours pas démembrer ? Merci.
Oui, bonjour, c'est Laurent de Brive. Je suis assez amusé par le discours de Monsieur Jancovici. Ben, je suis assez surpris d'entendre qu'il utilise des arguments, je dirais même des éléments de langage qui sont les mêmes que ceux des chasseurs. Quand il nous dit « oui, mais regardez, les piscines font plus de morts que le nucléaire », ça s'appelle des arguments fallacieux. On compare des choses qui sont pas comparables. C'est dommage.
Bonjour Mathieu, bonjour Camille, c'est Julie de Lagarnache en Vendée. Je vous appelle suite à votre émission avec Monsieur Jancovici hier, qui a déclaré que préserver l'environnement, c'est contraire à l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors là, je m'en serais complètement en faux avec cette déclaration, puisque quand on préserve l'environnement, eh bien, on achète local et de saison. On achète d'occasion, le ici, les vêtements, on mange également moins de viande, on réduit les températures de sa pièce à 19-20 degrés, on prend des douches à la place des bains, on roule moins, etc., etc. Donc préserver l'environnement, c'est largement réduire ses factures. Merci pour vos émissions, à bientôt.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Nicolas de Saint-Hilaire du Touvernisère. Franchement, ça fait du bien d'entendre sur votre antenne Jean-Marc Jancovici. Voilà quelqu'un de pragmatique qui n'est pas dans l'idéologie. On est tous d'accord, les déchets nucléaires, c'est un vrai problème. Et c'est vraiment dégueu. Mais dans la hiérarchie des ennuis qui vont nous tomber dessus, on a un autre déchet qui potentiellement peut tuer des milliards de personnes dans les décennies à venir. C'est ce CO2 que nous déversons allègrement tous les jours dans l'atmosphère et la baignoire est pleine. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre ce discours, mais c'est la physique qui nous le dit et la physique est implacable. Voilà, c'était Nicolas, pour qui la science c'est le réel.
François Clel dans la Marne. Les pro-nucléaires sont comme les gens qui ne passent pas la brosse quand ils vont aux toilettes. Ils n'ont aucun respect pour ceux qui passent derrière eux. C'est à l'opposé de l'esprit de Saint-Exupéry. Merci.
Et voilà la venue hier de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici ne vous a pas laissé indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire, comme en témoignent donc vos messages très nombreux et très contrastés sur le répondeur de l'émission. Alors vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en lien sur la page de la Terre au Carré et puis nous passer aussi un petit coup de fil au 01 56 40 45 45, le numéro du répondeur. Vous avez tous un jour éprouvé des sensations particulières en vous retrouvant face à la mer, en regardant une nuit d'été, un ciel étoilé ou en respirant l'odeur enivrante d'une forêt. Le bien-être que vous avez pu ressentir dans ces moments-là s'explique par des mécanismes biologiques qui sont à l'œuvre dans notre cerveau. Et ce sont les neurosciences qui nous éclairent justement sur ces questions en nous expliquant ce qui se passe lorsque nous sommes dans la nature et que nous éprouvons des émotions profondes. C'est l'objet d'un livre qui paraît « Cerveau et nature ». Il paraît chez Flammarion et vous en êtes l'auteur. Michel de Van Kuen, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, vous travaillez au LIB, c'est le laboratoire d'imagerie biomédicale. Vous êtes actuellement en duplex de Berlin, dans les locaux de Radio France. Et dans votre livre, vous vous intéressez donc aux recherches scientifiques qui ont été menées sur les effets bénéfiques de la nature sur le cerveau. On va se retrouver dans un instant pour en parler, avec les messages, les questions et sûrement les témoignages de nos auditeurs qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et sur l'appli France Inter avec vos messages vocaux. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Avec votre face à la mer, c'est malin, j'ai Calogero dans
oui,
la tête.
Absolument, 14h30, on passe au vert.
Et je vous emmène en Australie, touchée encore une fois par des pluies torrentielles dans l'est du pays. Sydney attend ce que les médias appellent des bombes de pluie.
On en parle donc tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardier avec Clément Berman à la technique. Et merci à Ludovic Pietenu qui nous permet de réaliser ce duplex depuis Berlin.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
J'ai besoin de me reconnecter à la nature très régulièrement et même ça devient une addiction quoi, à force. Besoin de se retrouver dans la verdure, le calme.
Être dans la nature m'apporte calme, sérénité et psychologiquement aide au moral.
Le fait de marcher dans la nature, ça aide à surmonter parfois même des difficultés psychologiques ou ce qu'on a au travail, les problèmes relationnels et ça fait un bien fou.
Voilà, et c'est bon pour la santé. Reportage de Télématin en juillet 2019. Michel Levent-Cuen, vous êtes donc chercheur en neurosciences et vous publiez ce livre Cerveau et nature chez Flammarion, sous-titré Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. Et ben nous, si on en a largement besoin dans cette émission, c'est pour ça qu'on a souhaité vous inviter. Ce livre, finalement, vous l'avez mûri, écrit pendant le premier confinement, à un moment où, on l'a vu, hein, tout le monde a été frappé par ce manque de nature.
Oui, tout à fait. Donc, il faut rappeler qu'il y a seulement 2 ans, 3 milliards de personnes ont été confinées à travers le monde. Donc, c'était en fait un choc psychologique énorme, une sorte d'expérience traumatique à l'échelle de la planète. Donc, je pense que maintenant, il faut essayer de se reconstruire, il faut passer à autre chose. Et j'écris effectivement dans ce livre que le simple fait de se connecter à la nature, en fait, a des effets, d'après moi, qui sont extraordinaires sur la santé mentale et sur le cerveau en général.
Est-ce que vous en avez souffert vous-même de ce premier confinement? Vous racontez que vous étiez dans un petit appartement à Paris et que vous êtes, comme beaucoup de gens, contenté de quelques arbres dans un square pour respirer un peu.
Oui, tout à fait. Donc, l'idée du livre est venue, en fait, d'une cette expérience personnelle du confinement. Donc, pendant quelques semaines, j'étais d'une certaine manière coupé de la nature dans un petit appartement parisien et je me suis aperçu que ça me manquait beaucoup. Et dans les différents autres confinements, je me suis aussi rendu compte que sortir de Paris, de me mettre au vert, m'a beaucoup aidé pour gérer un peu mon stress, de réduire les incertitudes et les inquiétudes. Donc, et je me suis aperçu que j'étais pas le seul. En fait, beaucoup de gens se sont tournés vers la nature pour faire face à la pandémie. Et il y a des études qui ont montré aussi que les gens qui avaient une maison avec un petit jardin ou alors un balcon fleuri, eh bien, ont pu passer beaucoup plus facilement cette période difficile que ceux qui en ont été privés.
Ouais, parce que vous parlez, Mathieu Vidard, vous parlez de squares. Il n'y avait pas les squares et les jardins étaient tous fermés dans les villes.
Non, mais là, c'est le square qu'il apercevait depuis sa fenêtre.
Ah oui, voilà, parce que pouvoir y aller, c'était pas possible, devant les grilles.
Ouais, alors cet accès à la nature, d'ailleurs, lors du premier confinement, Michel Levent-Cuen, il a beaucoup marqué de personnes. Et dès le printemps, d'ailleurs, 2020, une pétition du journal Reporter demandait un accès responsable à la nature. Il a recueilli 200 000 signatures. Ça disait justement quelque chose sur le manque profond, hein.
Oui, tout à fait. Donc c'était un besoin, d'après moi, qui est fondamental. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc c'est une sorte de besoin viscéral de nature. Et donc j'ai essayé effectivement de comprendre la raison de ce besoin. Et finalement, donc je me suis penché un peu dans la littérature scientifique qui montre que finalement ce besoin est lié à des sources qui sont très profondes, issues de notre évolution et qui ont des raisons très profondes dans notre psychologie.
On va écouter justement un micro-trottoir qui avait été réalisé par le Parisien en novembre 2020, donc à l'occasion du deuxième confinement. Et là, les vannes étaient un peu plus ouvertes et heureusement, ça a tout changé pour ceux qui ont pu accéder un peu à la nature.
À la fois pour la santé et pour le moral, pouvoir sortir, se retrouver dans un parc, entouré de nature, ça, pour moi, ça fait toute la différence.
Bon, c'est vrai que pendant le premier confinement, on pouvait sortir, mais on ne pouvait pas aller dans les parcs et jardins pour une raison qui reste encore à définir. Et je trouve ça beaucoup mieux, hein, de pouvoir profiter de la nature et de son environnement.
Bah c'est sûr que c'est un changement par rapport au premier confinement et effectivement du coup on le vit mieux parce que c'est vrai que voilà on a quand même un semblant de vie familiale. On peut sortir le dimanche et prendre l'air avec les enfants.
pour moi, c'est très important parce que la nature, ça fait partie de nous. Et sans la nature, bah, justement, on se sent enfermé. C'est aussi un bien pour le moral, pour augmenter le moral.
Voilà, novembre 2020, avec des conséquences, on l'a vu, dramatiques sur le moral et la fatigue mentale de tous les terriens qui ont été confinés, évidemment, Michel Le Vanquen. D'ailleurs, les indicateurs de santé psychologique l'ont confirmé, hein.
Tout à fait. Donc, il faut rappeler que une personne sur deux en France, en fait, n'a pas un accès à un espace naturel à moins de 10 minutes de chez lui à pied. Vous voyez, donc l'accès à la nature n'est pas en fait accessible pour tout le monde. Il faut aussi savoir que dans les grandes villes, eh bien, vous avez un risque plus important de maladies psychiatriques, en particulier des troubles de l'humeur et de l'anxiété qui augmentent de 30%. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes effectivement confiné dans les villes sans accès à la nature, eh bien, vous êtes confronté à un certain nombre de difficultés psychologiques.
Ouais, ça a été vraiment prouvé. Moins il y a d'espaces verts et plus on est face à des problèmes de santé mentale des habitants.
Tout à fait. Donc, il y a une grande étude, par exemple hollandaise, en 2009, qui a en fait épluché les dossiers médicaux de 350 000 personnes en Hollande, et ils sont aperçus que la santé générale, mais la santé mentale en particulier, enfin, diminue avec les distances qui séparent le domicile des parcs urbains. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de 400 mètres, eh bien, vous avez un risque plus important d'avoir certaines maladies psychiatriques. Et ça, c'est bien confirmé aussi par d'autres études, en particulier une étude américaine d'un grand psychologue qui s'appelle Mark Bergman de l'Université de Chicago, qui a montré que finalement, dans les villes, plus vous avez d'arbres à proximité, moins vous avez de risques d'avoir certaines maladies, comme par exemple des maladies cardiovasculaires, avoir du diabète, et moins vous prenez d'antidépresseurs. Mmh. C'est-à-dire que la nature dans la ville, c'est pas uniquement bien pour la fraîcheur des villes ou pour les émissions de carbone, mais c'est aussi très bien pour le cerveau.
Mais qu'est-ce qui se passe dans notre corps au-delà de la sensation de bien-être qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour qu'il y ait toutes ces conséquences bonnes et mauvaises?
Donc effectivement, tout le monde sait bien sûr que la nature fait du bien, la connexion à la nature et donne ce grand sentiment de bien-être. Donc la nature nous ressource, elle suspend aussi nos préoccupations momentanément.
Oui, mais techniquement parlant, aussi, entre guillemets, pardon, je voulais savoir vraiment presque au niveau physiologique, quoi.
Bah, c'est l'objet du livre, hein. C'est vraiment ça, c'est les mécanismes qui agissent dans le cerveau, Michel Le Vanquen. Hein.
Tout à fait. Donc, si vous voulez, on peut prendre l'exemple des marches en forêt, par exemple. Donc, les grands spécialistes de la recherche sur les effets des forêts sur l'organisme et sur le corps et sur le cerveau sont les Japonais. Donc, en particulier, il y a 40 ans, donc en 1982, l'agence forestière du Japon a préconisé d'intégrer en fait les promenades dans la forêt dans leurs recommandations pour une bonne hygiène de vie. Donc c'est à ce moment-là que les recherches ont commencé à débuter. Donc le grand pionnier dans ce domaine, c'est le professeur King Lee de l'université de médicale de Tokyo qui s'est beaucoup intéressé à l'effet des forêts sur en particulier le système immunitaire et en particulier donc l'effet des odeurs de la forêt. Alors vous savez que les odeurs sont pleines d'odeurs particulières, de molécules organiques qu'on appelle les phytoncides, qui sont par exemple des terpènes, des résineux. Vous connaissez cette odeur très forte des résineux. Ouais. Ou alors cette odeur un peu citronnée, qui sont les limonanes. Et donc le professeur, ce japonais King Lee, a montré que ces odeurs avaient un effet sur le système immunitaire, en particulier une classe particulière de cellules immunitaires qui s'appelle les cellules NK, qui sont des cellules qui sont en fait, d'après leur mot anglais, natural killing cells, des cellules qui tue des cellules malades de notre corps, par exemple infectées par des virus ou alors des cellules cancéreuses. Et donc ces odeurs ont un effet sur ces cellules NK. Ils augmentent environ de 50% leur quantité lorsque vous faites une promenade, deux jours de promenade dans une forêt. Donc là, c'est un des premiers effets de ces odeurs particulières de la forêt sur le système immunitaire. Donc ça protège bien sûr du Covid, mais ça vous permet d'avoir une immunité qui est amélioré. Donc ça, c'est un exemple
parmi tant d'autres, parce que vous en citez énormément évidemment dans ce livre, hein, et c'est tout un voyage d'ailleurs dans le cerveau. On va parler des neurones, on va parler de système parasympathique, de l'amygdale par exemple. Tout ça joue effectivement de façon très particulière lorsqu'on est dans la nature. Avant de se retrouver dans un instant, Michel Le Vanquen, avec les premières questions, est-ce que vous avez trouvé beaucoup d'études solides à ce sujet quand même dans la littérature scientifique sur les liens entre le cerveau, le bien-être et la nature?
Oui, il y a des grandes études. Je pense que, disons, depuis 40 ans, les études ont été faites, comme je l'ai dit, au Japon. Donc, c'est en particulier très associé, en fait, à souvent des situations alarmantes. Donc, il y a 40 ans au Japon, c'était les premiers cas de karoshi. Donc, c'est les gens qui sont morts morts par le travail. Donc, les Japonais ont beaucoup réfléchi à comment améliorer une certaine manière la santé mentale, en particulier les employés de bureau. Mais il y a beaucoup d'études qui sont développées au Japon, aux États-Unis, un peu moins en France, il faut le reconnaître. Donc il y a des choses solides.
Allez, on se retrouve dans un instant pour découvrir comment notre cerveau justement réagit face à la nature et vous répondrez au message des auditeurs. C'est le lac avec Vendredi sur mer.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Depuis les années 70, les études qui prouvent l'impact de la nature sur la santé s'empilent. Mais cette approche thérapeutique reste confidentielle. N'est-il pas temps que la santé publique investisse le sujet plutôt que de sponsoriser la consommation massive d'antidépresseurs?
Voilà, Michel Levenquet, c'était un message pour vous, laissé par Jean à l'instant sur l'application France Inter. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, vous le dites, hein, qu'il y a besoin d'une reconnexion à la nature, qu'il y a un manque terrible pour nos vies au quotidien, et que finalement, c'est pas du tout un sujet mis sur la table aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est peut-être pas un sujet mis sur la table en France. Probablement, on paye un peu l'héritage cartésien. C'est que, d'une certaine manière, d'après moi, la nature, l'environnement naturel n'est pas un environnement comme les autres. On n'est pas simplement des sujets séparés de nos environnements naturels. Donc, la nature fait partie de nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins compris en France. Mais d'après moi, au niveau mondial, les recherches s'organisent et il y a beaucoup de données qui sont disponibles et qui montrent effectivement cet effet.
Mais on pourrait économiser beaucoup de médicaments justement si on était un peu plus attentif à ces sujets-là ou pas?
Donc ça fait partie effectivement des médecines complémentaires. C'est-à-dire que je pense que c'est très important j'aime pas tellement le terme de médecine alternative parce que on choisit pas l'un ou l'autre, mais c'est une médecine complémentaire dans laquelle finalement le bien-être peut être rapidement obtenu par des règles d'hygiène assez simples. Donc par exemple la promenade dans la forêt donc, que préconisent les Japonais donc dès 1982, donc ça fait il y a 40 ans, mais c'est simplement faire une petite balade en forêt dans laquelle on oublie un peu la technologie. on n'écoute pas, on n'en a pas son téléphone portable, et on essaie de s'ouvrir à la nature pendant quelques moments, et on laisse la nature à soi. Donc c'est une expérience polysensorielle que l'on vit. Et bien ça a des effets déjà très très forts sur notre santé mentale, comme on en a déjà parlé. Et donc c'est très simple à mettre en place, ça coûte rien aussi.
Ouais. On va écouter d'ailleurs le chercheur Yoshifumi Miyazaki, qui est chercheur à l'université de Chiba au Japon, qui travaille depuis très longtemps justement sur l'impact de la forêt sur nos organismes, et on va entendre une petite expérience qu'il a menée.
Je vais vous montrer une image de la forêt. Restez bien assise, détendez-vous, c'est important.
Pendant 1 minute 30, ces capteurs mesurent l'activité du cerveau préfrontal de cette étudiante. Elle est plongée dans le noir, face à une image de forêt.
Ici, c'est lorsque nous avons montré l'image de la forêt. Et tout de suite après, la courbe descend. Son activité cérébrale diminue, c'est-à-dire qu'elle est détendue.
La courbe remonte à la fin de l'expérience, lorsque l'étudiante n'a plus la forêt sous les yeux.
Quand on y réfléchit, ça ne fait que 200 ou 300 ans qu'on vit en ville. Et cette vie moderne nous demande beaucoup d'efforts d'adaptation. Et ça génère du stress. La nature, et la forêt en particulier, c'est tellement en nous qu'il en faut juste un peu pour que ça nous ramène à nos origines et nous apaise.
Voilà, c'est étonnant. Même une image suffirait pour nous faire un peu de bien, comme l'a filmé France 3 en novembre 2018 avec ce chercheur japonais.
Et moi, je voudrais vous demander, Michel Levenquen, est-ce qu'il y a des gens sur Terre, des humains qui pourraient ne pas être sensibles à tout ça ?
Je pense que c'est pas le cas. Donc je pense que vraiment ça fait partie de notre nature humaine. Donc comme l'a bien dit en tout cas ce chercheur japonais, je pense que il avait émis l'hypothèse de ce qu'on appelle la biophilie. C'est-à-dire que, et c'est une hypothèse qui a été surtout développée par un grand naturaliste qui s'appelle Edward O. Wilson, qui était un grand professeur de Harvard, et qui a donné une explication évolutionniste à cet attrait de la nature. Et son hypothèse, c'est que notre cerveau, finalement, a évolué en synchronie avec le monde naturel depuis des millions d'années, et que nous aimons la nature, nous sommes d'une certaine manière attirés spontanément par elle, parce que nous avons appris à aimer les éléments qui ont longtemps nous servi à notre survie. Donc cet héritage explique en fait l'attraction qu'ont certains éléments de la nature, comme qui finalement se rapproche du biotope de nos origines. Donc la présence, par exemple, de l'eau, un espace ouvert, la présence animale ou végétale. Comme il a dit lui-même, donc 50% de la population mondiale actuellement vit en ville, mais c'est un phénomène qui est très très récent. Au début du XXe siècle, seulement 15% de la population française vivait dans les villes. Donc finalement, 200 ans plus ou moins au niveau de qui correspond à la révolution industrielle, c'est peu par rapport à l'histoire de l'humanité qui, si on croit les anciens fossiles de Jabal Yerout au Maroc, remonte à 300 000 ans. Et si on regarde le cerveau de l'homme moderne, eh bien on voit que finalement son anatomie est pratiquement la même que celle d'un homme de Cro-Magnon, qui a vécu par exemple dans les vallées de la Dordogne il y a 30 000 ans. Donc finalement beaucoup de choses restent encore là.
Michel Levenquen, on entendait cette étudiante japonaise réagir à déjà une simple photo d'une forêt, mais vous dites quand même qu'il n'est jamais aussi bénéfique que d'aller directement faire l'expérience de la nature, d'être physiquement au contact, hein. Les effets sont décuplés.
Tout à fait. Donc c'est une expérience, comme je dis, polysensorielle, dans laquelle il y a pas seulement la vision, mais aussi les odeurs, le contact direct aussi avec les éléments naturels qui ont aussi des effets. Donc c'est l'ensemble de cette expérience, à mon avis, cette immersion d'une certaine manière qui joue un rôle bénéfique. Et donc c'est pas que la vision, ouais. Effectivement.
Une question d'Elisa sur franceinter.fr. Elle demande quid de la recherche sur le jardinage comme antidépresseur naturel grâce aux micro-organismes du sol. Elle cite deux neuroscientifiques, Dorothy Matthews et Susan Jenks, qui disent « Manger, toucher, respirer un organisme du sol peut être lié au développement de notre système immunitaire et de notre système nerveux. »
Tout à fait. Donc effectivement, donc c'est le cas par exemple dans la forêt, mais aussi dans un jardin. Et souvent les jardiniers, lorsqu'ils bêchent leur terre, ont souvent une sorte de sentiment un peu d'euphorie. Et selon certains chercheurs, en particulier Christopher Fleury de l'Université de Bristol, eh bien cet effet euphorisant est induit en fait par le contact qu'on a avec certaines bactéries, des bactéries bénéfiques qui sont pas dangereuses. Par exemple, une bactérie qui s'appelle le Mycobacterium vaccae, et c'est donc ces bactéries bénéfiques, on les absorbe à travers la peau, on les respire, et ces bactéries s'intègrent à ce qu'on appelle notre microbiote intestinal. Vous savez que vous avez dans votre ventre en fait une sorte de zoo, une collection de bactéries qui sont 50 000 milliards de bactéries qui constituent un véritable organe supplémentaire. C'est à peu près 2 kilos que vous avez en plus qui jouent des fonctions très importantes. Et en particulier, ce microbiote est directement en contact avec le deuxième cerveau, comme on l'appelle, le cerveau qu'on a dans le ventre, qu'on appelle le système nerveux entérique. Et ce système nerveux entérique, le cerveau dans le ventre, est une sorte d'usine chimique qui crée en fait un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont très importants, comme par exemple la sérotonine. Et vous savez, la sérotonine a un fort effet, disons, antidépresseur. Donc vous avez donc une sorte de cascade dans votre corps. Vous êtes en contact avec ces bactéries, ça crée de la sérotonine qui a un effet sur le cerveau. Voyez.
En tout cas, Michel Levanken, on verra tout à l'heure qu'il y a tout un vocabulaire du végétal qui s'adapte parfaitement et qui est même utilisé pour le cerveau. Et puis vous nous donnerez d'autres exemples qui prouvent justement les bienfaits et les mécanismes du cerveau face à la nature. C'est l'objet de votre ouvrage qui paraît chez Flammarion.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, pétante, Camille Passauvert.
Et c'est la saison des pluies en Australie. L'an dernier, je vous parlais quasi exactement à la même période des intempéries, ouais. Les pires depuis plus d'un demi-siècle, avec des images impressionnantes de troupeaux de bovins, par exemple, nageant et essayant de s'extraire du déluge, comme celle-ci où on entend les éleveurs sur des bateaux à côté. Keep going, allez avancer, crie-t-il en utilisant, vous entendez, une corne de brume. On voyait les vaches surnager et on les entendait de loin. Voilà, épuisées les pauvres vaches. Autre image qui avait fait le tour du web, des nuées d'araignées qui fuient l'eau en se mettant en hauteur sur des poteaux, des grilles, des murs de maison ou sur la porte du garage de cette habitante enchantée.
Check these spiders out, oh my god. Oh.
Voilà, c'était noir d'araignée, porte totalement recouverte. Regardez les toutes soufflées-elles. Et si je vous ressors ces extraits aujourd'hui, c'est qu'il se passe exactement la même chose en ce moment, même en pire, toujours dans l'est du pays, le Queensland et l'État de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé avec 8 millions d'habitants.
Weather emergencies along the east coast, the new forecast for flooded communities between Sydney and Brisbane.
Médias en boucle qui parlent de bombes de pluie et décrivent des paysages dévastés.
The rain has really intensified and it is coming in sideways now and you can see it getting very misty and strong outside.
Voilà, le tout en mode hélicoptère, hein, avec une grosse menace sur la ville de Sydney, 16h06. 500 000 personnes sont priées d'évacuer, sachant qu'au moins 13 sont mortes et que beaucoup d'autres ont perdu leur maison. Habitante en pleurs qui explique comme c'est dur et le choc pendant que d'autres s'interrogent. Ils disent que c'est la tempête du siècle, mais que se passe-t-il? Nous, c'est notre troisième en 2 ans, dit cette dame. Et si la situation se répète, c'est qu'il y a une superposition de phénomènes. La saison des pluies, d'abord, je vous le disais, hein, avec par-dessus le phénomène La Niña qui perturbe la température des eaux de surface dans les océans et encore par-dessus le réchauffement climatique. Résumé de la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de recherche pour le développement.
On a une atmosphère qui est extrêmement chargée en eau parce que les eaux océaniques alentour sont très chaudes, hein, donc il y a une évaporation intense. L'atmosphère étant plus chaude de manière globale avec le changement climatique, elle peut contenir plus de vapeur d'eau. Et puis généralement, quand ces masses d'air humide arrivent sur les continents, eh bien, elles déversent toutes leurs eaux.
Résultat, ces pluies diluviennes, l'hydrologue Emma Aziza a regardé les derniers chiffres.
Des précipitations qui dépassent 400 mm en 24 heures. On a carrément des pluies de 300 mm en près de 6 heures. Ça correspond, pour qu'on comprenne bien, aux précipitations qu'on peut avoir dans le sud de la France sur les événements méditerranéens catastrophiques, sauf que l'étendue est de 400 km. Donc en fait, on a des pluies d'une quantité colossale sur des surfaces énormes et donc nécessairement tous les cours d'eau vont réagir avec de l'eau qui arrive de partout, qui ne peut plus s'évacuer et donc qui donne effectivement ces résultats qu'on a avec ces évacuations massives, ces victimes et ces inondations spectaculaires.
Et le problème donc c'est que c'est de pire en pire, hein, pas en termes de fréquence mais plutôt en termes d'intensité, de quantité de pluie qui tombe à cause du réchauffement climatique. Françoise Vimeux.
C'est lié à un phénomène que je dirais presque très simple, c'est que plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau. C'est 7% en plus de vapeur d'eau par degré de réchauffement. On peut retrouver exactement ce chiffre en termes de pluie supplémentaire et même dans certaines conditions d'événements extrêmes orageux, on peut avoir plus que 7%, on peut aller jusqu'à 14% de quantité de pluie en plus pour 1 degré de réchauffement de l'atmosphère. Donc si on va vers un scénario où on aurait une anomalie de 3 degrés en plus par rapport à la période pré-industrielle à la fin du siècle, et ben vous voyez, ben ça fait, on est quasiment à au-delà de 20% de quantité de plus que l'atmosphère peut contenir en eau.
Sympa, non ?
Ouais.
Et l'Australie n'est pas unique. Hein. Le GIEC prévoit que les prochains, ce seront l'Arctique, l'Amérique du Nord et l'Europe. D'où la nécessité d'adaptation, hein, dont parle le dernier rapport publié lundi, je le rappelle. Mais la chercheuse se gratte un petit peu la tête sur la situation australienne.
L'Australie, c'est quand même assez emblématique parce que ils ont les pluies torrentielles, les feux, les sécheresses et ils ont une adaptation qui est très à la traîne, en tout cas pas à la hauteur. C'est tellement basique et presque prévisible. C'est étonnant.
Voilà, tous les phénomènes extrêmes et pourtant aucune leçon tirée pendant que les autorités sur place avertissent.
We are seeing unprecedented flooding and we expect that flooding to get worse.
Des inondations sans précédent qui vont s'empirer, dit le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, sans avoir donc rien anticipé, que ça serve au moins de leçon aux autres. Comme on dit beaucoup aujourd'hui, hein, look up, n'est-ce pas ?
Ouais, et on peut écouter votre chronique Camille Cronier sur la plage, sur la page de la Terre au Carré, non pas la plage.
Voilà. On peut sur la plage aussi. On a envie. Michel Levanken, des phénomènes comme ça, de pluies diluviennes, des phénomènes extrêmes, que ce soit des canicules, des pluies ou des sécheresses, des tempêtes, des cyclones, ça a aussi évidemment des impacts, j'imagine, sur notre cerveau et sur notre bien-être.
Et sur le stress que ça engendre.
Oui, sur le stress, ça c'est moins étudié, il faut dire la vérité, des phénomènes extrêmes. La nature, finalement, qui fait du bien, c'est plutôt une nature qui est plus paisible, calme. Plus calme. Donc, mais effectivement, bien sûr, en particulier au 19e siècle, les gens avaient peur de la nature, peur de la mer, par exemple, ou de la forêt qui faisait peur très longtemps au Moyen-Âge. Donc, bien sûr, la nature ne fait pas que, provoque pas que du bien-être, mais la nature, bon, qu'on a dans les villes, la nature qui est domestiquée par d'une certaine manière l'homme et qui est moins anxiogène que certaines catastrophes.
Et en sortant justement des catastrophes là dont on parle, si on compare par exemple, quelqu'un qui regarde de la pluie tomber, juste simplement de la pluie tomber, hein, pluie normale, ou un paysage ensoleillé, est-ce qu'il va y avoir une différence ou ça dépend là pour le coup des gens ?
Donc ça, on le sait pas très bien, mais je crois dans les deux cas, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, et ça reprend un peu une hypothèse que certains psychologues ont fait, qu'on appelle la restauration de l'attention, c'est-à-dire que c'est une explication particulière donnée par deux psychologues américains qui s'appellent Rachel et Stephen Kaplan, qui ont fait l'hypothèse suivante, c'est qu'on passe finalement une grande partie de notre temps à ruminer des idées. C'est une de nos caractéristiques d'une certaine manière. Souvent, c'est des ruminations qui sont négatives. Ça a été, par exemple, bien montré par une grande étude publiée dans la revue Scientific Science en 2010, qui ont sur 3000 personnes, qui ont montré que la plupart du temps, on pense à des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire actuellement sur le moment. C'est-à-dire que le contenu des pensées n'a rien à voir avec les actions d'une certaine manière qu'on mène. Et souvent, ce sont des pensées qui sont négatives. Et par contre, donc, si vous êtes devant une fenêtre où vous regardez le soleil, eh bien, d'une certaine manière, la nature vous empêche de ruminer. C'est-à-dire que votre attention, enfin, ces stimulations font que votre attention est portée sur l'environnement et ça, d'une certaine manière, permet de régénérer le cerveau. Donc, c'est un des phénomènes probablement qui explique ces effets bénéfiques de la nature, c'est que ça, finalement, ça fait sortir un peu des ruminations, surtout des négatives.
Une sorte de méditation.
Michel Le Vanquen, nous avons des questions pour vous de la part des auditeurs, on vous les transmet dans un instant. Wake Me Up, c'était Fall sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Il y a 700 écoles dans la nature au Danemark. Près d'un quart de l'offre éducative. Posée en bord de mer, au cœur d'une réserve naturelle, cette maternelle en extérieur est tellement réputée que des parents ont déménagé pour que leurs enfants puissent vivre ici une expérience unique.
Ici, la nature est partout. Ils vont emmagasiner du réconfort et de la quiétude avant d'affronter ce monde trépidant où tout va si vite.
Dans ces maternelles en extérieur, les enfants apprennent bien sûr à lire, écrire, compter pour se préparer à l'entrée au primaire. Mais surtout, au contact de la nature, ils apprennent à se découvrir eux-mêmes.
Nous croyons que si nous donnons une bonne base aux enfants, ils se connaissent mieux, ils ont plus d'assurance, ils sont plus francs, joyeux et curieux. C'est ça la clé. S'ils sont curieux et s'ils sentent le monde, ils auront envie d'apprendre. Et plus tard, ils seront prêts pour l'école, pour accueillir et assimiler les apprentissages.
Voilà, les Danois souvent cités en exemple, extrait d'un reportage de France 3, nous les Européens, avec la voix de la pédagogue Pauline Menezes qu'on entendait à l'instant. Michel Le Van Kuen, vous qui avez compilé la littérature scientifique, finalement l'exemple de ces forêts dans la nature sont validés par la science sur leurs effets bénéfiques?
Ces écoles.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Les forêts.
Les forêts, oui, les écoles.
C'est les écoles. Donc, l'étude que je connais, qui je trouve la plus extraordinaire, c'est une étude qui a été publiée en 2015 sur des écoliers, sur des enfants dans la ville de Barcelone. Mm-hmm. Donc, c'est à peu près 3000 enfants qui ont été suivis pendant une année à l'aide de coordonnées GPS et d'images satellites qui ont permis, en fait, de mesurer chaque jour, en fait, l'exposition, le degré d'exposition des enfants à des paysages naturels. Alors, ce soit à la maison, soit dans leur chemin vers l'école en bus, par exemple, ou alors à l'école. Et les chercheurs, donc, au bout d'un an, se sont rendus compte que les enfants qui étaient le plus exposés aux environnements naturels, eh bien, c'était aussi ceux qui avaient la meilleure mémoire de travail. Donc, la mémoire du travail, c'est une fonction qui peut vous permettre de garder un certain nombre d'éléments à l'esprit. Donc, c'est une fonction très importante pour les apprentissages. Mmh. Donc, c'est la base, en particulier, de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc l'attention, la concentration. Donc, effectivement, ça montre que une exposition, même brève, simplement regarder par exemple un paysage naturel par la fenêtre du bus a déjà des effets sur le cerveau et un effet sur effectivement certaines fonctions de l'apprentissage. Donc je suis convaincu que c'est le cas effectivement.
Message de Jonathan sur franceinter.fr qui nous écrit qu'il passe la plupart de ses week-ends en forêt amazonienne. Bisous de Guyane.
Ah oui, il a de la chance. Hein.
Il est rafraîchissant de se retrouver humble face à la nature sauvage, sans réseau téléphonique, sans route, sans chemin, sans secours. Et il poursuit en disant qu'il était très inquiétant, selon lui, que la plupart des décideurs n'aient jamais vécu cette situation qui nous ramène à notre condition d'animal parmi les autres. Ça, c'est lui qui le dit. Et puis, on a une question, Michel Le Van Kuen, de Florent, qui demande si scientifiquement on voit une différence d'effet, de perception entre ce qu'on va qualifier de nature véritable et sauvage et nature anthropisée, c'est-à-dire les parcs, les jardins, les squares.
Oui. Bon, effectivement, donc il y a bien sûr des grandes différences au niveau du nombre de stimulations, d'une certaine manière. Donc l'expérience de la nature sauvage est beaucoup plus, disons, englobante, multisensorielle qu'une expérience simplement d'un parc. Mais d'après moi, les recherches scientifiques montrent que, eh bien, cette exposition même temporaire dont on vient de parler, simplement regarder un paysage ou un arbre d'une fenêtre a déjà un effet qui est bénéfique. Donc probablement l'effet est beaucoup plus fort et intense lorsqu'on vit en contact direct avec la nature, mais cet effet existe également, beaucoup plus petit, mais existe également lorsqu'on regarde un arbre par la fenêtre en ville.
Oui. Parlez-nous du système sympathique et parasympathique, Michel Le Van Kuen, parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur les nerfs en particulier qui naissent dans l'encéphale pour rejoindre, c'est ce que vous expliquez, nos organes et nos différents tissus, et tout ça, c'est la mécanique que vous décrivez justement du cerveau, hein.
Tout à fait. Donc il y a quelque chose, finalement, le cerveau n'est pas que dans la tête, c'est aussi dans l'ensemble du corps. Et vous avez en fait une sorte de grand arbre qui est à l'intérieur de votre corps, qui est composé, qui définit ce qu'on appelle le système nerveux autonome. En fait, c'est un système nerveux qui permet en fait le contrôle automatique de vos fonctions vitales, par exemple la respiration, les battements cardiaques ou la digestion. Et ce système est composé de deux grandes branches, d'une certaine manière. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle le système sympathique, qui est une sorte d'accélérateur physiologique. En fait, c'est ce qui vous permet de vous préparer à l'action, ça réagit au stress. De l'autre côté, vous avez un autre système qu'on appelle le système parasympathique, qui est un système plutôt de repos, de régénération de votre corps. Et c'est un peu comme une voiture, lorsque l'un est actif, l'autre ne le peut pas. Donc ça travaille en alternance et c'est souvent un bon équilibre. Par contre, lorsque vous êtes dans un stress qui est chronique, eh bien un système devient dominant, c'est le système sympathique qui déverse dans votre corps un certain nombre d'hormones qui créent des effets néfastes dans l'organisme, comme des problèmes cardiovasculaires ou ça inhibe votre système immunitaire. Donc ce qui a été montré en particulier par les Japonais, c'est que eh bien lorsque vous comparez des gens qui font des marches en forêt par rapport à une marche en ville, eh bien vous avez une augmentation à peu près de 100% du système parasympathique. Donc c'est-à-dire que vous profitez de tous ces bienfaits de ce système qui permet d'une certaine manière de remettre à niveau toutes vos fonctions vitales.
Mais ça veut dire qu'on sécrète concrètement des molécules dans ces cas-là ou pas, de bien-être?
Donc effectivement, il y a un cocktail d'hormones qui sont sécrétées à ce moment-là. On a parlé tout à l'heure de la sérotonine, par exemple, qui a un fort effet antidépresseur. Donc il y a un cocktail d'hormones qui sont déversées dans le corps et qui aident d'une certaine manière cette régénération des fonctions vitales.
Et je le disais tout à l'heure, il y a tout un vocable du végétal qu'on transpose finalement au cerveau. Hein. Vous parliez d'arbre finalement dans le corps humain. Il y a des ramifications aussi autour de cet arbre. Hein.
Tout à fait. Donc d'après moi, l'image la plus appropriée pour représenter le cerveau, c'est pas en fait la machine, comme on pouvait le croire. En fait, par exemple, Julien Onfray de la maîtrise au XVIIIe siècle, comme une sorte de rouage d'une machine. Oui. C'est pas aussi en fait un ordinateur ou comme pourrait le penser, par exemple, les gens de l'intelligence artificielle. Pour moi, la meilleure image pour représenter le cerveau, c'est le végétal. Et lorsque vous regardez des coupes de cerveau, et j'en montre quelques-unes dans le livre, en particulier les fabuleux dessins d'un Espagnol qui s'appelle Santiago Ramón y Cajal, qui a dessiné les neurones et dessiné des parties du cerveau, on se rend compte que la morphologie des neurones, ça ressemble à des petits arbres. Et lorsqu'on regarde l'ensemble du cerveau, on a vraiment l'impression que ce sont une grande forêt dans laquelle il y a des racines souterraines qui vont un peu dans tous les sens. Donc finalement, de rapprocher l'organe cerveau d'une forêt, du végétal, est quelque chose qui est, à mon avis, très, 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 très moderne. Est très intéressant comme métaphore.
Et Michel Levanquien, j'imagine quand même que dans tout ça, il y a la lumière, le soleil qui ont quand même une importance capitale. On parle souvent de vitamine D, etc. Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Tout à fait. Donc, je pense qu'on devrait plus profiter de la lumière du jour. Maintenant, le printemps commence. Donc, je pense que une hygiène de lumière du jour est quelque chose de très important. Finalement, l'invention de l'ampoule électrique est très récente. C'est, si je me trompe pas, 1879 par Thomas Edison. Ce qui fait que finalement, dans les grandes villes, vous avez une sorte de lumière qui est permanente. Ça a été rapporté, c'est qu'un tiers de l'humanité, un tiers de la population mondiale ne voit pas la Voie lactée la nuit. C'est-à-dire que on n'a plus l'obscurité pendant la nuit, et au contraire, donc pendant la journée, eh bien on vit dans des environnements qui sont pleins de lumière artificielle.
Et la lumière du jour, elle fait quoi alors sur le corps? Pareil, encore une fois, un peu techniquement.
Techniquement, eh bien ça perturbe. Si vous avez une mauvaise hygiène de la lumière du jour, ça perturbe ce qu'on appelle les horloges circadiennes. Vous avez en fait dans votre rétine un certain nombre de cellules, pas beaucoup, à peu près 5% des cellules de votre rétine, qui sont directement connectées à une petite structure qui porte un nom barbare qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, et qui sont notre horloge interne, notre horloge circadienne. Donc ça contrôle l'ensemble des fonctions vitales sur un rythme de 24 heures. Et on sait que cette petite horloge circadienne a besoin de la lumière du jour pour bien fonctionner. Par exemple, ça a été bien montré dans les expériences hors du temps. Peut-être vous connaissez l'expérience de Michel Siffre en 1962, qui s'est volontairement enfermé dans une caverne pendant 2 mois. Et les chercheurs se sont rendus compte que son horloge interne a été perturbée, que les jours pour Michel Siffre duraient environ 24h30. Donc, c'est-à-dire, au bout de 2 mois, il est sorti de la caverne et il pensait qu'il était en août, alors que c'était déjà le mois de septembre. Donc ces perturbations liées au fait que l'horloge circadienne ne se cale pas sur la lumière du jour entraînent un certain nombre de problèmes. Un des problèmes qui est connu, c'est des perturbations de l'humeur. C'est ce que l'appelle par exemple les anglo-saxons, le SAD, le Seasonal Affective Disorder, donc le trouble de l'humeur saisonnier, qui est finalement cette sensation un peu de dépression ou de manque de motivation qu'une personne sur cinq vive pendant l'hiver. Donc ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez de lumière du jour et ça entraîne donc cet effet sur l'humeur. Donc une bonne hygiène de vie, quelque chose qui est extrêmement important pour l'ensemble des fonctions de l'organisme.
Michel Avantken, vous expliquez que notre cerveau, par exemple, est sensible à des moments particuliers de la journée. C'est ce petit regain de joie au petit matin, ça aurait quasiment une origine biologique ?
Tout à fait. Donc, dans ces photorécepteurs de la rétine, il y a des récepteurs qui sont photosensibles, qui sont particuliers, qu'on appelle la mélanopsine. Et ce sont des récepteurs qui sont sensibles à la lumière bleue. Et en particulier, ce sont des récepteurs qui sont extrêmement sensibles à la lumière du matin. Donc, si vous profitez de la lumière du matin, oui. Eh bien, vous avez d'une certaine manière un effet très tonique sur votre cerveau. Ça vous réveille véritablement. Et il y a même des gens qui adorent se lever le matin uniquement pour profiter de la lumière du jour. Il y a le très beau livre de Rémi Ougdeuri qui s'appelle Habiter l'aube, qui préconise cette technique de se réveiller tôt le matin pour voir simplement le jour se lever.
Voilà, je vois plein de gens qui font les gros yeux derrière la vitre en s'étonnant qu'on puisse être heureux de se lever très très tôt le matin. Et je les comprends quand même un petit peu. Le cerveau, eh bien, réagit certainement également à la samba. Voici France Gall et on se retrouve juste après pour d'autres questions des auditeurs. Samba Mambo France Gall sur France Inter, encore 3 minutes en compagnie de Michel Levent-Cuen, neuroscientifique, pour nous parler de cerveau et de nature. C'est l'objet de son livre chez Flammarion. Et Camille, des questions.
Émilie nous écrit toujours sur franceinter.fr. L'eau, la mer a-t-elle le même effet ? J'habite sur un voilier. Je trouve que l'eau a un effet plutôt apaisant, comme si elle absorbait tout le stress et l'anxiété. Alors qu'en dites-vous, Michel Levent-Cuen ?
Oui, c'est tout à fait juste. Donc ça, c'est aussi bien montré par une grande étude européenne qui s'appelle l'étude Blue Health, donc santé bleue, qui a montré que les problèmes de santé mentale en général sont moins nombreux au bord de la mer que à l'intérieur des terres, et même si vous avez un jardin ou même si vous avez des espaces verts à proximité. Donc c'est un effet qui est extrêmement fort sur le psychisme, donc les plages.
On sait pourquoi précisément.
Alors une des hypothèses, c'est que d'une certaine manière, ce sont des environnements qui sont extrêmement apaisants. C'est-à-dire que et je fais l'hypothèse aussi dans mon livre que une structure cérébrale qui est particulière, qu'on appelle l'amygdale, est une structure qui est à ce moment-là très très calme. Et l'amygdale est une structure qui est de cette manière programmée depuis la nuit des temps pour réagir au quart de tour à chaque signe imprévu. Donc cette structure est extrêmement calme et ça permet une certaine manière de profiter des bienfaits de ces environnements.
Oui, vous écrivez, le cerveau n'a pas de menace finalement face à la mer. Exactement. quand elle est calme, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour prolonger la question de notre auditrice, vous parlez des bienfaits thérapeutiques de la flottaison et même de la couleur de la mer qui pourrait jouer aussi sur la façon dont on peut se sentir.
Oui, donc ça revient un peu à la question précédente sur le matin et la couleur bleue, par exemple, qui stimule ces photorécepteurs particuliers qui contiennent la mélanopsine. Donc ça a un aspect extrêmement tonique. Et donc le bleu est une couleur particulièrement favorable pour créer des états, disons, de très grand bien-être. Et effectivement, donc se laisser flotter sur l'eau, certaines personnes adorent ça. Et en particulier, une personne qui adorait ça, c'était Romain Rolland, qui l'a décrit même dans une lettre à Freud en 1920, et il adorait être dans l'eau. Il avait la sensation, d'une certaine manière, d'être sans frontières dans l'eau. Il faisait vraiment une expérience religieuse, prête spirituelle de la nature. Donc, effectivement, il appelait ça le sentiment océanique. Bon. Donc, dans l'eau, on a des sentiments particuliers, et je fais l'hypothèse que ce sont une vieille expérience résiduelle de notre vie intra-utérine. C'est que, peut-être, d'une certaine manière, on a des anciens souvenirs de notre état d'utérus, bon, qui remonte à la surface.
Voilà qui parlera peut-être à notre auditrice qui a la chance de vivre sur un bateau. En conclusion, Michel Le Van Quen, qu'est-ce que ça nous dit finalement toutes ces études? Qu'est-ce que vous préconiseriez au fond?
Bon, je pense que la plupart des gens vivent avec une sorte de soupçon de nature dans leur vie. Donc la nature est quelque chose qui est en nous. Et ignorer cette expérience, d'après moi, c'est finalement ignorer une capacité innée qu'on a à se connecter avec la nature. Donc finalement, pas faire l'expérience de la nature, c'est une dimension humaine qu'on oublie un peu.
Recultivons nos neurones, hein. Cultivons-les, en tout cas c'est important. Et puis essayons de revivifier nos cerveaux fatigués de trop d'artificiel. C'est ce que vous dites en conclusion. Merci beaucoup à vous. Merci à Ludovic Pietenu pour ce duplex de Berlin. Votre ouvrage Cerveau et Nature, pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde, est paru chez Flammarion. Merci beaucoup.